La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. La prostituée est une figure familière de la littérature du 19e siècle. Sa position sociale en fait un personnage commode pour qui veut décrire de manière réaliste puis naturaliste la société dans son ensemble. Son activité professionnelle permettant aussi à l'auteur d'aborder des thèmes encore tabous et de montrer en mots les corps. Mais si la prostituée occupe cette place centrale dans la littérature entre 1830 et le début du XXe siècle, c'est qu'elle est aussi une métaphore, celle de l'écrivain lui-même, un écrivain devenu au cours de ce siècle un homme public, un homme face à un public, aussi mystérieux soit-il. Dans un essai brillant, Éléonore Reversi explore cette métaphore. Elle est aujourd'hui l'invitée de la suite dans les idées. Éléonore Reversi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française du 19e siècle à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous publiez au CNRS Éditions Portrait de l'artiste en fille de joie, la littérature publique. On va revenir sur ce sous-titre en particulier et cette notion de public qui est au cœur de votre réflexion, une réflexion qui porte à la fois sur un certain nombre de livres publiés au 19e siècle, de livres de différentes natures, mais aussi sur des productions culturelles autres comme celles qu'on peut trouver dans les journaux en particulier, une réflexion qui s'intéresse à ces textes, mais qui s'intéresse aussi plus largement au contexte dans lequel ces textes sont écrits et publiés, rendus publics, ce contexte dans lequel ces textes vont trouver leur public, parce que c'est un moment extraordinairement important, celui du passage de ce qu'on appelle les belles lettres à la littérature. On sait que ça fait partie, et Dominique Khalifa l'a montré, de la naissance véritablement de la culture de masse, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les années 1950 et le livre de poche qui renvoie à la culture de masse, mais des choses très importantes se mettent en place au 19e siècle. Avant qu'on aborde tout ça, je voudrais qu'on parte peut-être de ce qu'il y a de plus partagé, de plus commun à propos de cette référence à la prostituée dans la littérature du 19e, c'est-à-dire des textes classiques. Quand on pense à la figure de la prostituée dans la littérature française, on pense évidemment à Nana de Zola, mais à beaucoup d'autres textes. C'est au fond un personnage très très fréquent dans cette littérature.
Oui, mais c'est justement l'omniprésence de ce personnage qui m'a tout d'abord beaucoup intriguée. C'est-à-dire que on dit volontiers que dans les romans naturalistes en particulier, quand un jeune écrivain s'engage et dans la voie du roman, il doit écrire un roman de prostituée. C'est une sorte de passage obligé, et je dirais comme une sorte d'adoubement. Il va écrire un roman sur la prostitution et il sera considéré comme un romancier naturaliste, en quelque sorte labellisé comme tel. On le voit très bien dans la carrière de quelqu'un comme le jeune Huysmans, qui commence par écrire Marthe, histoire d'une fille, qui va ensuite écrire Les Sœurs Vatar, qui est un roman cette fois de l'ouvrier, et je dirais qu'il a en quelque sorte coché les deux cases qui font de lui un bon romancier naturaliste correspondant au modèle alors en vigueur. Mais on s'aperçoit assez rapidement en fait qu'en remontant dans le siècle, cette prostituée est déjà présente, aussi bien dans le théâtre romantique bien sûr, mais aussi dans le grand roman d'Eugène Sue, qui est Les Mystères de Paris, et à ce moment-là, on en vient à se demander pourquoi est-ce qu'il y a la permanence de cette figure qui, certes, ne fait pas l'objet de traitements tout à fait similaires entre les années 1830 et les années 1870-1880, mais qui est quand même toujours là.
Alors, il y a des buts d'explication. D'abord, on pourrait se dire que socialement, la prostituée occupe une place importante. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est assez logique qu'elle occupe aussi, du coup, dans la littérature, une place importante. La deuxième chose, je relevais dans l'introduction, c'est que, au fond, c'est un personnage commode. C'est un personnage qui permet, par ce statut d'entre-deux, d'intermédiaire, de mise en relation avec de nombreux milieux sociaux, de regarder, de donner à voir, au fond, la société sous toutes ses facettes.
Voilà. Donc, c'est un personnage, je dirais, de go-between. Donc ça me semble intéressant, puisque même si elle est généralement issue du peuple, elle a face à elle toutes les classes sociales, si je puis dire, qui peuvent défiler dans son alcôve.
Et puis elle peut avoir un destin aussi.
Voilà, elle peut
une
avoir
trajectoire
un destin.
Sociale.
Elle peut avoir une trajectoire sociale, mais en fait, il faut bien se dire qu'il y a quand même peu d'élus, c'est-à-dire qu'il y a quand même peu de filles du trottoir qui deviennent d'illustres horizontales, qui ont leur calèche et qui passent l'après-midi au Bois de Boulogne. Donc, Il me semble en tout cas que c'est un personnage cependant qui, en raison de cette trajectoire, de cette ascension sociale dont il est potentiellement porteur, est à comparer peut-être au jeune homme provincial qui monte à Paris pour y tenter sa chance. Donc il me semble que ce destin, cette idée d'une ascension sociale, d'une traversée possible du corps social, la prostituée en est également la représentante, tout à fait donc comme le jeune homme de province.
Le jeune homme qui, et c'est pas tout à fait anodin, va souvent être un journaliste, autre personnage central de cette littérature du 19e siècle. Et ce couple prostituée-journaliste va être au cœur d'un certain nombre de romans. Et c'est pas un hasard, c'est en rapport avec toute la démonstration qui est la vôtre, qui consiste à montrer que derrière cette figure de la prostituée, il y a une métaphore. Et on pourrait dire, derrière ce couple aussi, prostituée-journaliste, il y a quelque chose de passionnant qui permet de comprendre ce qui se joue dans l'économie de la littérature, du livre et plus largement de la presse durant tout ce siècle.
Voilà, alors le journaliste et la prostituée peuvent apparaître comme des figures parallèles en fait, l'un vendant son esprit ou les fruits de son esprit et l'autre vendant son corps. Donc là on a une espèce de démonstration qui est très simple finalement dans le cheminement parallèle de ces deux personnages, mais je dirais que le dispositif prostitutionnel est souvent plus complexe puisque la prostituée dont le journaliste partage l'existence est elle-même donc entretenue par des entreteneurs officiels ou des amants de passage et donc que le journaliste bénéficie. Alors, il est à la fois dans la position, à ce moment-là, du proxénète, qui jouit indirectement des revenus de sa compagne, mais il est lui-même prostitué. Donc, on voit que ses positions sont constamment susceptibles de s'échanger. Mais il y a bien, en tout cas, cette idée d'une prostitution parallèle, voire d'un système prostitutionnel qui serait exploité conjointement par le journaliste et la prostituée.
Alors comment apparaît historiquement cette métaphore ? Vous dites dans votre essai que avant même le 19e siècle, que dès le 17e même, on a des occurrences de cette qualification de l'écrivain comme homme public, j'allais dire, prostitué.
Disons que la métaphore de, enfin, le terme de prostitution littéraire est en effet déjà présent au 17e, mais il est quand même rare. On le retrouve au 18e, notamment chez Voltaire à propos d'écrivains anonymes qui publient, qui écrivent des livres sur commande. C'est dans l'article Charlatanisme du dictionnaire philosophique.
Mais oui, c'est assez merveilleux de lire ces lignes de Voltaire sur le charlatanisme.
Voilà, c'est exactement ce que sera ensuite la littérature sur commande, par exemple, de la librairie Hachette. Enfin, on a déjà donc un système d'écurie d'auteurs. Au milieu du 19e siècle. On a déjà un système d'écurie d'auteurs qui, alors, à partir de l'époque d'Hachette dont je viens de parler, vont signer leurs ouvrages, mais qui sont vraiment des professionnels de l'écriture. Donc, cette métaphore est déjà présente aux siècles antérieurs, mais elle devient... Alors, je dirais, pour une raison peut-être... La première, c'est peut-être que ce que promeut le romantisme, c'est l'idée d'une littérature sincère. C'est l'idée que l'artiste, et c'est tout le modèle de cette littérature qui passe par l'individuation, l'artiste est sincère, l'artiste est pur, l'artiste écrit avec son cœur, l'artiste a des convictions, il a des idées, il a une pensée qu'il défend. Et en même temps, c'est à partir de là qu'on commence à débattre vraiment de la question de la propriété intellectuelle, qui fait débat sans doute depuis des siècles, mais qui va véritablement s'institutionnaliser. Dans les années 1830, il y a les questions de contrefaçon, il y a les questions de plagiat, il va y avoir la création de la Société des gens de lettres en 1839. Et donc, l'écrivain en même temps, donc il mérite un salaire.
C'est normal. Là, c'est Proudhon, donc, là, c'est Proudhon que vous citez, avec des réflexions qui, là encore, font référence à la prostitution, s'agissant de réfléchir à la meilleure manière, au fond, de rémunérer le travail intellectuel qui est celui de l'écrivain.
Voilà. Selon Proudhon, finalement, l'écrivain qui raconte l'histoire qu'il a observée et qui est un ouvrier qui se jette dans la Seine pour sauver une femme de la baignade, le véritable auteur, en quelque sorte, selon Proudhon, c'est l'ouvrier. Et l'écrivain qui entreprend de raconter cette scène, il exploite déjà de manière indue, finalement.
Il capte le réel, on va dire.
Voilà, il capte le réel, mais il est déjà finalement en train de tirer profit de quelque chose dont il n'est pas l'auteur. Et on voit bien comment est-ce que Proudhon met cela en parallèle avec la question de la prostitution.
Voilà. Au fond, je voudrais vous donner l'occasion de nous expliquer pourquoi ce mot public, dans son double sens, au fond, est très important pour comprendre l'usage de cette métaphore et l'efficacité de cette métaphore. Parce qu'au fond, si cette métaphore est utilisée, si on en vient à désigner, pour le discréditer, dans un premier temps, l'écrivain comme s'adonnant à la prostitution littéraire, c'est bien parce que l'écrivain se trouve désormais face à un public. Et là, vous citez Rousseau, même, qui dit qu'il a affaire à un public au moment où il publie les lettres de ses lecteurs. Et moment assez étrange, mystérieux, parce que il ne sait pas très bien qui est ce public, il a envie de le savoir. Et il y a une forme d'ambiguïté dans cette relation au public.
Il y a une forme d'ambiguïté, et puis il y a surtout au départ, et on voit bien que la fin de la société d'Ancien Régime, qui plaçait l'écrivain finalement dans une situation où il savait pour qui il écrivait. Hein, il savait qu'il écrivait pour ses pairs.
Des cercles très restreints.
Des cercles, des salons mondains et littéraires. Et donc, il se trouve confronté à un public indistinct. Hein, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs, d'une formule qui me semble très, très, très juste, la crise du destinataire. Hein, pour qui est-ce que j'écris? Et je dirais que ça, tout d'abord les écrivains de la période de l'Empire, ils sont confrontés, on le voit très bien chez Chateaubriand notamment. Et peu à peu, on comprend que c'est le terme qu'utilise Balzac dans l'avant-propos de la Comédie humaine en 1842, c'est pour les masses. Mais voilà, il y a de plus en plus de lecteurs, hein, donc les masses, la masse lisante, hein, comme le dit aussi Balzac, ne cesse de s'accroître, mais elle ne devient pas plus distincte pour autant. Et donc, cette confrontation à la masse fait que l'écrivain s'interroge sur ce qu'il doit écrire, hein, pour intéresser ce public dont il ne comprend pas, dont il ne connaît pas les attentes, avec lequel donc il entretient une relation ambiguë qui consiste à la fois à le séduire, à essayer de lui proposer quelque chose qui lui convienne, mais qui en même temps, il considère toujours comme insuffisant en quelque sorte, incompétent. Hein. Donc il y a cette double attitude qui pourrait être à la fois une attitude de séduction et en même temps une attitude hautaine, hein, de rejet de ce public qui de toute façon ne le comprendra pas.
Hein. Alors on aurait pu imaginer d'autres métaphores, d'ailleurs elles ont été utilisées aussi.
Oui,
on pourrait penser du coup l'écrivain comme un ouvrier de la littérature, un prolétaire de la littérature, ou comme, je sais pas,
un mercenaire
ou un mineur, pour reprendre l'image de la mine utilisée par Balzac, si je me souviens bien.
Par Zola, pardon.
Oui, non, mais dans un des textes que vous citez, je ne sais plus, il y a cette idée qu'au fond, il y a une exploitation.
Alfred Nettement.
Voilà. C'est Alfred Nettement qui parle de ça. Donc, mais il y a quelque chose de plus riche, au fond, dans la métaphore de la prostitution, de plus intéressant littérairement, qui va conduire les écrivains à inventer ces personnages de prostituées dans une relation complexe à eux-mêmes, au fond.
Oui. Alors, c'est-à-dire que il me semble que le personnage de prostituée est d'abord sans doute la promesse d'histoire grivoise, graveleuse.
Et donc de succès public.
Qu'elle représente, en effet, on le disait tout à l'heure, en tant que go-between, mais aussi en tant que celle qui voit l'envers des choses. C'est-à-dire qu'elle est la seule à voir le bourgeois, enfin le client, hein, dans sa nudité, dans son désir, dans sa brutalité, dans la satisfaction de son désir, etc. Donc elle a une espèce de regard sur des réalités charnelles. Elle a un poste d'observation privilégié, hein, indéniablement. Donc elle apporte...
Ça, c'est précieux pour l'écrivain, évidemment.
Voilà. Hein, donc en cela, on voit bien en quoi c'est un personnage qui est rentable, hein, à plusieurs titres. Elle est aussi source d'histoire. Hein, et j'ai essayé de montrer à quel point, notamment, toutes les fictions du bordel passaient par l'idée que la maison close était une sorte de lieu dans lequel les fictions se multipliaient. Hein. Soit que la prostituée était amenée à jouer des rôles, puisqu'on sait qu'en effet, et en cela, les fictions sur lesquelles j'ai travaillé sont très référentielles, que les prostituées avaient on leur imposait des noms d'emprunt, mais on leur imposait le rôle qui allait avec. Hein, la belle juive, la duchesse ou la bourgeoise, la femme comme il faut, la femme honnête, la fille des champs, plus nature, etc.
Hein, et ça renvoie aussi à cette typologisation à l'œuvre à l'époque, dans la littérature et même les sciences sociales naissantes, pour
dire. Voilà, tout à fait. Hein, donc c'est ce système taxinomique et qui est en effet déjà présent, pour revenir au XVIIIe siècle, dans les travaux de Rétif de la Bretonne, qui est un grand écrivain obsédé par la taxinomie, donc il classe les filles, et on sait puisque vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que s'il y avait des prostituées aussi dans les romans du 19e siècle, c'était peut-être parce que c'était un personnage d'actualité, mais la prostitution était encore bien plus d'actualité sans doute au 18e siècle, où il y avait des bataillons prostitutionnels et alors toute une série de catégories de prostituées qui portaient, en particulier on le voit par la richesse lexicale. Le 19e siècle est relativement pauvre sur le plan lexical par rapport à tous les termes qui servaient au siècle précédent à qualifier les prostituées. Donc en tout cas, la prostituée, et ça c'est Marc Angenot qui l'avait bien montré, est vraiment porteuse de taxinomie, de classification. Elle est elle-même, elle entre dans des classifications, mais en tant qu'elle est ce regard privilégié sur l'homme, elle peut permettre de classifier aussi des catégories de clients. On le voit très bien notamment dans la maison Philibert de Jean Lorrain en 1904, où non seulement chaque prostituée représente une catégorie précise, et elle apporte avec elle à son client une fiction précise, ce client lui-même étant, mettons, un lecteur d'Anatole France ou un lecteur de Pierre Loti. Alors il va se tourner vers la prostituée de type oriental, hein, qui est la promesse d'une espèce de fiction exotique qu'il s'invente le temps qu'il passe dans la couche de la prostituée, ou au contraire, il projette sur l'image de l'une de ses prostituées qui est surnommée la Duchesse, une fiction qui est Corinne ou l'Italie, enfin une espèce de reprise de Corinne ou l'Italie de Madame de Staël. Tout cela, bien sûr, étant très parodique, très ironique. Mais il n'en demeure pas moins, voilà, qu'on est bien dans un système taxinomique que permet la prostituée. Voilà.
Alors que se passe-t-il entre ces années 1830, la monarchie de Juillet, grosso modo, ces années où se met en place ce nouveau régime éditorial, au fond, la littérature telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut dire à certains égards qu'elle naît là, en tous les cas, le système éditorial, il va évidemment évoluer en permanence, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'invente à ce moment-là. Que se passe-t-il entre ce moment-là et puis la fin du 19e siècle, une époque où un romancier naturaliste comme Émile Zola, qui va continuer d'utiliser la figure de la prostituée comme l'ont fait avant lui un certain nombre de ses prédécesseurs, n'hésitera pas à revendiquer non pas la vénalité de l'écrivain, mais le fait que cet écrivain puisse gagner de l'argent et même beaucoup d'argent par son travail sans aucune espèce de gêne qui en revanche était très très fortement ressentie par ses prédécesseurs dans les années 1830, ce qui explique que les critiques utilisaient cette métaphore de la prostitution pour tenter de disqualifier certaines formes de littérature émergente.
Oui, en effet, c'est-à-dire qu'on voit bien comment cette question de, enfin, ce qu'on peut appeler une duplicité communicationnelle, qui est celle dont souffre l'écrivain des années 1830. Hein. J'écris mes opinions, mes idées, j'écris avec mon cœur, mais quand même, je gagne de l'argent. Et cette question, finalement, d'un immatériel qu'on monnaie, mais donc on le fait toujours de manière en quelque sorte honteuse, et quand on gagne un peu d'argent, on est aussitôt accusé d'être un prostitué. Il me semble que cette duplicité communicationnelle et ce sentiment d'une espèce de skise de l'écrivain, elle marque encore la génération née dans les années 1820, Flaubert, Baudelaire, Edmond Goncourt. Elle s'estompe ensuite et des écrivains qui sont des, je dirais, un peu des hommes nouveaux, c'est-à-dire, on le voit bien chez Zola, c'est quelqu'un qui n'est pas bachelier, Zola. Donc, comme toute sa génération, née dans les années 1840, on voit accéder à ce moment-là à la littérature des écrivains qui n'ont pas la formation qui était celle de la génération précédente, mais qui conservent cependant, dans cette question de l'individuation qu'on évoquait tout à l'heure à propos du romantisme, qui conservent cependant cette idée très forte que, on le voit très bien chez Zola, il dit que une œuvre d'art est un coin de la nature vu à travers un tempérament. Cette idée de tempérament, c'est l'idée d'originalité, c'est l'idée de singularité. C'est donc toujours l'individuation et c'est donc toujours le maintien finalement d'un modèle romantique qui est celui, cette idée qu'on écrit quand même de manière très singulière, très affirmée, qu'on défend ses propres idées. Mais en effet, le fait de gagner de l'argent avec ça, c'est plus du tout un problème.
Du coup, comment se pose la question, vous y faites allusion à un moment, de l'autonomisation de cet univers littéraire, la question de l'art pour l'art, ce sur quoi Bourdieu a travaillé à propos de Flaubert en particulier. Et vous insistez beaucoup sur, j'allais dire, le poids, en tous les cas, je dirais l'existence de structures éditoriales, qui elles-mêmes évoluent. D'ailleurs, on passe d'un modèle du libraire à la mise en place du système des maisons d'édition telles que on les connaît, avec le rôle déterminant d'Hachette en particulier et de ces politiques éditoriales nouvelles. Mais comment concevoir finalement ce rapport à l'autonomie de l'écrivain à travers cette conception romantique, à travers quels usages stratégiques les écrivains eux-mêmes vont faire de cette autonomie pour, paradoxalement, gagner de l'argent?
Alors, bon, le cas d'écrivains comme Flaubert ou comme les frères Goncourt est tout à fait révélateur, il me semble, justement, de position très ironique qui les voit à la fois, enfin c'est très clair dans les déclarations que fait Flaubert, jamais je ne publierai en revue, et finalement il publie Madame Bovary dans la Revue de Paris, et en même temps donc ce refus de la publication qui serait prostitution. Et par ailleurs on sait à quel point Flaubert parle de ses lecteurs, s'intéresse à ses lecteurs, à quel point il va échanger justement, il va répondre à des lectrices qui vont lui écrire après la publication de Madame Bovary. Donc il me semble qu'il caractérise très bien cette position très ambiguë, très ironique, qui fait d'ailleurs que chez Flaubert, il y a une valorisation de la prostituée, des rues, nullement justement de la prostituée qui accéderait, qui deviendrait une cocotte, puisque là elle sent bourgeoise, elle se corrompt. Mais il me semble que cette idée que l'artiste est une prostituée à 10 francs, comme l'est le personnage de Marie dans ce roman qu'il n'a pas publié, qu'il écrit en 1845 et qui s'intitule Novembre, il me semble qu'il y a bien cette valorisation de la prostitution comme figure de l'artiste qui se donne à tous pour rien. Mais on voit bien que chez Flaubert, il faut surtout... On peut publier, mais la question du fait que ça rapporte de l'argent est quand même quelque chose qu'on ne peut pas revendiquer. Et chez les frères Goncourt, c'est à partir plutôt d'une image de l'aristocratie, dont ils se revendiquent aristocrates, lorsqu'on sait qu'en fait leur particule est assez récente. Mais c'est une manière pour eux, je pense, de s'inscrire à rebours ou à contre-temps de leur siècle.
Alors, il y a une chose sur laquelle on a peu insisté, mais qui apparaît très très importante dans toutes ces transformations au fil du 19e siècle, c'est le rôle de la presse, en fait, et tout ce qui se passe autour des romans feuilletons, l'irruption de la fiction dans les journaux quotidiens, qui eux-mêmes connaissent des mutations à la fois économiques et technologiques très 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 grandes, et on a du mal aujourd'hui à se représenter cette période où l'information se trouve concurrencée par la puissance de la fiction et de la littérature.
Oui, tout à fait. Et non seulement se trouve concurrencée, mais se trouve aussi entrée en relation. C'est-à-dire que quand on lit, quand on suit son feuilleton roman au rez-de-chaussée du journal, ça entre nécessairement en interaction avec l'actualité qui se trouve présentée dans les pages du journal autour de cette fiction. Et on sait que le roman feuilleton, les travaux d'Alain Vaillant et de Marie-Ève Terrenti l'ont très bien montré, est aussi lié à un procédé publicitaire au départ, de fidélisation. D'où le fait que cette présence de la fiction dans la presse est souvent justement assimilée à une forme de prostitution du journal, qui ne va plus être un journal d'opinion, comme c'était le cas de la presse sous la Restauration. On lisait un journal en fonction de ses options politiques, et il exprimait une ligne politique. Et on voit comment est-ce que le roman feuilleton introduit justement du désordre dans tout ça. Le cas le plus célèbre étant la publication des Mystères de Paris qui va être véritablement un roman d'orientation socialiste dans la presse conservatrice.
Ce qui est frappant, c'est de voir que les écrivains participent de cette invention de nouvelles formes de publicité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de native advertising s'agissant des transformations de la publicité les plus contemporaines. Mm-hmm. Mais au fond, on a déjà ça avec du placement de produits, même fictifs, dès le 19e siècle. Et les écrivains jouent un rôle très important dans ces inventions.
Tout à fait. Et avec des tas de procédés finalement de fidélisation de clientèle, de lecteurs.
Donc on voit bien que la métaphore fonctionne.
Voilà, tout à fait.
La métaphore prostitutionnelle fonctionne admirablement avec ou entre en écho, je dirais, avec ces modèles économiques qui s'inventent de la littérature. Alors cette métaphore, elle va être utilisée jusqu'au début du XXe siècle. Comment disparaît-elle en quelque sorte? Quelle est la fin de l'histoire? C'est-à-dire que on voit que Zola, vous l'avez dit, assume cette position d'un écrivain qui gagne beaucoup d'argent, donc les choses ont évolué depuis 1830. Mais qu'est-ce qui va se passer après Zola?
Oui, alors on voit quand même comment... Enfin, moi, j'ai travaillé au départ, ce qui m'a, il y a très longtemps, donné l'idée de ce travail, de manière en quelque sorte inconsciente. Je m'en suis aperçue quand j'ai eu terminé la rédaction du livre. J'avais rencontré sous la plume de Valérie Larbaud, un poète écrivain du début du XXe siècle, cette métaphore de la prostitution littéraire, qui l'appliquait notamment au fait que... Désormais, on montrait par exemple des photographies des écrivains, ce que Larbaud trouvait absolument scandaleux. On interviewait les écrivains, ça c'est tout un phénomène qui se développe sous l'influence du modèle anglo-saxon à la fin du 19e siècle, qui est déjà un peu présent, puisqu'on voit que déjà des journalistes se rendent chez Eugène Sue pour regarder la couleur de son papier peint, et que ça scandalise d'ailleurs les critiques conservateurs des années 1840. Donc cet intérêt pour l'intérieur de l'écrivain, pour la vie personnelle de l'écrivain, pour les images de l'écrivain, on le voit très bien. Antoine Lilti l'a montré dans son livre sur les figures publiques, comment notamment la Byron Mania au début du 19e siècle en témoigne. Alors quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête vraiment, en fait? Simplement, la prostituée n'est plus la figure qui permet de le dire. Je dirais que c'est plutôt cette littérature publique, nous y sommes bien sûr, elle ne sait pas.
Et la dénonciation du marketing littéraire, le regard un peu méprisant porté sur la commercialisation des livres à chaque rentrée littéraire ne sont que les nouvelles manières au fond de
C'est ça. De Il dire. Me semble que l'intérêt du personnage de la prostituée, c'est bien sûr qu'elle dit tout cela, cette question de la marchandisation, mais elle parle aussi de plaisir. Et il me semble que cette dimension-là d'une littérature réflexive et qui met en scène aussi le plaisir lectoral à travers la figure de la prostituée, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui.
À remettre au goût du jour. Donc, merci Éléonore Reversi. Je rappelle le titre de votre livre, Portrait de l'artiste en fille de joie, la littérature publique. Il est publié chez CNRS Éditions. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez réécouter l'émission et également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Denet, à la technique, Valérie Lavalard, à la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein et sa conversation scientifique que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.